L'écoute de Radio Méga, que serons-nous sans son, et pas comme Véronique, ici nous allons nous attacher à l'expression musicale et en faire tout un cinéma, prêtez donc une oreille attentive à ce qui va suivre.
Bonjour MMM.
Bonjour Cécile.
Eh bien bonjour Maître Belle aussi qui nous écoute et qui va participer aussi à cette émission en particulier. Et nous fêtons aussi cette fois nos 3 ans d'émission.
Déjà ?
Oh ! Et oui, hein, en 20 janvier 2016, nous faisions nos premiers pas aidés avec la main de Eric qu'on salue parce qu'il nous a bien aidés pour nous mettre le pied à l'étrier. Et nous sommes toujours présents et ravis de vous retrouver. Tout de suite, nous passons à l'actualité.
Qu'est-ce qu'on a à l'actu ?
Les fées fail du mois !
Ça, c'est génial comme générique. Alors, accrochez-vous. Donc, des gros bugs dans WordPress 5.0. Bon, ça, on est habitué. Hein ? Un rapport du département de la défense US trouve des missiles balistiques vieux de 28 ans et sans aucune sécurité informatique. Hein, donc, pas d'antivirus, pas de chiffrement. Ouh là là ! Génial.
Oh, des têtes imprimées en 3D pour tromper la reconnaissance faciale.
C'est ballot. France Info qui poste par erreur un lien vers tous les mots de passe de ses comptes en ligne dans un tweet.
Oh, joli.
C'était pas mal ça.
Oui, une faille dans la base de données SQLite qui expose les utilisateurs de navigateurs web.
SQLite, ouais, c'est une petite base de données en fait qui est embarquée dans des applications qui utilisent des fichiers en fait pour stocker ces TAM. Et il y a une petite faille quoi.
Wow.
Un bracelet électronique sur un chat, bah, c'est pratique pour échapper à la justice. Hein.
Ouais. Oh bah Facebook qui partage toujours plus de nos données avec toujours plus de ses partenaires.
Avec des guillemets. 1700 enregistrements d'utilisateurs d'Alexa envoyés par erreur à un autre client d'Amazon.
Oups.
Voilà. Ah ben Alexa toujours qui d'ailleurs a planté l'heure des fêtes parce qu'il y avait trop de gens qui voulaient s'en servir. C'est
mais
malin.
Alexa c'est la voix, enfin le boîtier vocal de Amazon.
Ouais
c'est ça. Waouh.
Wow. Des liens qui s'incrustent tout seuls dans votre mur Facebook, donc faites attention si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui a posté sur votre mur Facebook un truc bizarroïde avec... Il faut pas cliquer dessus parce qu'en fait ça va reposter pour vous.
Faites attention. Une fausse application Setup for Amazon Alexa qui pompe vos données personnelles.
Voilà, donc ça c'est une application qui n'a rien à voir avec Amazon et qui se fait passer pour une appli d'Amazon pour configurer Alexa et qui va vous pompe vos données, quoi, comme les applis LampTorch et tout. Donc encore un truc vachement sympa. Et puis alors le dernier, accrochez-vous, les données personnelles de centaines de fonctionnaires du gouvernement allemand ainsi que de la chancelière publiées par de vilains pirates.
Pirates.
Ouais mais du coup c'est allé loin parce que je crois qu'ils sont allés jusqu'à leur faire des chantages et tout pour contre diffusion de vidéos, de photos privées et tout, c'est pas sympa quoi.
Et bien sûr, toutes nos failles de ce mois sont retrouvées aussi sur notre blog AAA.fr.
Voilà, on n'a pas de sponsor. C'est sponsorisé par... Non, ni McAfee, ni... Non, rien.
Non, même pas Microsoft.
Même pas Microsoft, ni Avast, ni rien, aucun.
On est quand même supporté par le logiciel libre, hein, quelque part.
Oui, ben voilà. Mais, ouais.
Avec un petit WordPress quand même qui va bien.
C'est bien. Allez, une petite pause.
Une petite pause musicale pour nous retrouver tout de suite après avec le sujet de Maître Belle. En voilà une pause musicale bien planante avec Silver Lining Articulate. Donc nous allons écouter ce que Matt Bell nous a réservé cette semaine. Donc ce sera sur la musique dans les films.
Eh oui.
La musique dans les films. Au début, il y avait les frères Lumière qui ont réalisé de courtes images animées d'occurrences normales, comme la foule, le train, les gens alignés. La caméra qu'ils développèrent en 1895 captura les premières images animées. Comment ? Alors nous sommes passés de leurs images complètement silencieuses et granuleuses à nos films remplis et entraînés par des bandes sonores à pleine puissance. Il est intéressant de noter qu'il y a une raison psychologique pour laquelle de nombreux spécialistes du cinéma croient que la musique improvisée a été ajoutée au film muet. Ils affirment que regarder les acteurs en noir et blanc parler avec absolument aucun son ne nous ferait sentir à un niveau de base primaire, insensible. Le mouvement artistique de l'expressionnisme est arrivé à peu près au moment où les films muets sont devenus très populaires. En conséquence, nombre de premiers films muets sont soit des comédies, comme Charlie Chaplin, soit des expressionnistes. Quoi qu'il en soit, ces films seraient projetés sur un écran devant un public. Mais rester silencieux ne passerait probablement pas très bien. Et ils ne pouvaient pas ajouter de musique au film lui-même. Ils avaient donc joué de la musique en direct à chaque projection du film. Que ce soit d'un piano droit ou d'un quatuor à cordes complet, il n'y aurait pas de partitions écrites, c'est vrai. Ils ont inventé au fur et à mesure et ont regardé le film lorsque le personnage de Chaplin est tombé. Et que les musiciens mémorisaient les films après plusieurs représentations par jour dans des semaines. Ils reflétaient cela donc avec un son similaire de la musique. Ils avaient parfois de la musique écrite, mais c'était généralement un point de départ. Pour leur improvisation, la musique écrite serait publiée dans des livres et toujours arrachée à des compositeurs morts ou obscurs. Ensuite, il y aurait une page ou deux de musique de cirque qui pourrait donner au pianiste une idée de l'endroit où commencer son improvisation. Dans une scène de carnaval, c'était un type de performance fluide et chaque projection du film serait un peu différente. Charlie Chaplin, malheureusement, n'a pas vraiment survécu à la transition vers des films avec le son ou le parlant. Entendre soudainement sa voix et l'associer à toutes les images qu'on lui avait vues en silence s'est avéré être un choc pour le public. Les musiciens de maison pour les théâtres étaient sans aucun doute moins ravis de l'interruption aussi. Ainsi, au lieu des comédies géniales, les comédies musicales ont commencé à envahir la scène à la fin des années 20. Dans les comédies musicales, bien sûr, tout semble s'arrêter quand une chanson commence pour que le personnage puisse chanter. Il est clair que les réalisateurs et scénaristes étaient très conscients du fait qu'ils ajoutaient de la musique à leurs films et ne savaient pas le faire de manière plus subtile. Cela viendrait. Le chanteur de jazz en 1927 a été le premier long métrage à inclure la parole synchronisée avec les acteurs à l'écran. Cela signifie que les premiers mots prononcés sur le film étaient les premiers mots de ce film. Vous savez tout sur celui-ci, vous pourriez ne pas réaliser. Après l'ère certes brève de la plupart des comédies musicales, la technique du scoring classique qui était dans l'un des moyens les plus populaires de faire entrer la musique dans les films. C'est le moyen le plus subtil, souvent le plus puissant pour la musique d'influencer un film. En 1933, le King Kong original est sorti avec la partition originale de Max Steiner, qui signifie musique écrite. C'est l'un des premiers films à comporter un score, une partition complète tout au long de l'intrigue. Et Steiner l'a écrit en utilisant la technique de notation classique. Pour l'expliquer de manière la plus simple, la technique de notation classique sonne comme un orchestre jouant à l'arrière-plan du film. Quand il y a une scène intense, la musique est intense. Quand il y a une scène heureuse, la musique semble heureuse. À un niveau plus compliqué, le compositeur utilise des thèmes. Une musique entière pour représenter quelque chose comme l'amour ou la guerre. Et des leitmotifs, quelques notes dans un motif reconnaissable représentant un personnage ou une petite idée. Et garde toute la partition ensemble sans que le public ne remarque, même que les oreilles reconnaissent les motifs répétés de la musique. La notation classique qui crée beaucoup de musique à l'arrière-plan du film atténue également les coupures de scène ou toute autre maladresse du film en poursuivant l'idée d'une scène à l'autre. Max Steiner est l'un des compositeurs de notation classique les plus prolifiques et les plus célèbres, avec 26 nominations aux Oscars et 3 victoires de la musique. Il a marqué notamment avec Autour n'emporte le vent et Casablanca parmi des dizaines d'autres. Aujourd'hui, vous reconnaîtrez probablement le nom de John Williams. Il est encore plus prolifique que Steiner et a marqué la plupart des géants du cinéma, tels que La Guerre des Étoiles et Harry Potter. Je n'ai pas assez de temps ici pour vous dire combien de récompenses il a remportées. Alors je vous renvoie à Wikipédia qui vous le dira. Le jazz, comme presque tout le reste dans les années 30, se divisa racialement dans les films de l'époque. Il y avait le jazz noir et le jazz blanc. Le jazz blanc ressemblait presque au swing et était joué sur des violons et autres instruments symphoniques. Il était généralement utilisé dans des films pour représenter le plaisir. Le jazz noir, par contre, était beaucoup plus brutal et plus purement jazz avec trompette et saxophone. Il représentait souvent des femmes de mauvaise réputation, au caractère immoral ou une interruption générale de la normalité. La musique jazz était la première fois que la culture populaire était entrée dans les films. Et les gens l'aimaient. Hollywood l'a utilisé comme outil pour caractériser instantanément les parties du film avec le jazz, car il possède des associations très spécifiques avec certains lieux et certaines personnes. Par exemple, dans un tramway nommé Désir, la partition jazzy, certes symphonique, contribue à cimenter le décor de la Nouvelle-Orléans et les actions normalement discutables des personnages. Le jazz, depuis longtemps, faisait partie de la culture pop, avec de nombreux clubs de jazz installés dans les quartiers branchés de la ville. C'était le premier genre de musique véritablement américain. Malheureusement et assez maladroitement, le jazz était considéré comme une musique afro-africaine et devait être assaini. Avant de passer dans les films blancs, nous voyons beaucoup moins, le cas échéant, de codage racial dans nos films d'aujourd'hui. Évidemment, à la mesure que le racisme devient moins répandu. L'époque des western spaghetti, populaire dans les années 50 et 60, a entraîné un certain retour de la notation symphonique. Ils ont utilisé les mêmes idées que la technique de notation classique et les instruments d'orchestre similaires. Mais on a ajouté le son occidental avec une guitare fantaisis ou une trompette espagnole. La musique était large, longue, allongée comme le décor. Il devait être grand pour remplir tout l'espace vide que l'effet montrait. Alors les compositeurs ont écrit pour des orchestres complets. Cette technique a été utilisée pour intensifier les combats au canon et les poursuites à cheval pour aider à peindre l'image du paysage à 360 degrés autour du public. La plupart des thèmes et des films les plus populaires, voire Le Bon, la Brute et le Truand de 1967, sont constamment parodiés ou cités dans les caricatures d'aujourd'hui. Ennio Morricone est l'un des compositeurs italiens les plus célèbres pour des western spaghetti. Il a presque toujours fait équipe avec le réalisateur Sergio Leone. Leur collaboration est sans doute Leone jouant la musique de Morricone pendant qu'il filmait la scène pour que les acteurs puissent l'entendre. Ces films, bien sûr, sont ceux lesquels Clint Eastwood est devenu si célèbre pendant la scène de duel du film Le Bon, la Brute et le Truand. Les westerns cèdent la place aux films de science-fiction et de suspense dont la musique est inquiétante. Les partitions ont été influencées par l'avant-garde de la musique à 12 tons d'Arnold Schoenberg. Cette musique accentue les émotions négatives en utilisant des notes qui sonnent pas très bien ensemble. Les compositions demandent que les instruments soient utilisés de manière nouvelle et peu orthodoxe, technique étendue, comme taper sur le dos d'une guitare, comme un tambour, au lieu de jouer des cordes. De cette façon, le public serait incapable d'identifier le son qui accentuera encore l'inconfort. Des films célèbres avec cette technique incluent Psycho en 1960, La planète des singes en 1968 et Apocalypse Now en 1979. En 1977, John Williams a relancé la technique de notation classique avec son score infâme de Star Wars. Dun, 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 bum, 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 bum. Merci fait revivre l'héritage des compositeurs comme Max Steiner en créant des partitions complexes avec des thèmes et des leitmotifs reconnaissables, notamment le thème de Luc, qui reste l'un des plus familiers de l'histoire du cinéma. Danny Elfman, célèbre maintenant pour avoir écrit le thème des Simpsons, est apparu peu de temps après et a marqué Batman de Tim Burton dans le style classique. Bien que les origines de cette musique classique soient allemandes, Airwolf, dans les années 1880, nos oreilles reconnaissaient maintenant comme une musique de fond générique. Pour cette raison, on l'appelle l'idiome par défaut. Si nous entendons parler pendant que Batman zoom sur Gotham, personne ne demande pourquoi cette musique classique allemande était jouée. Il a été rendu intemporel par les musiques de films. Bien sûr, les comédies musicales ne sont jamais parties, mais elles sont devenues beaucoup moins populaires. Le périodique musical est sorti et est devenu populaire. La mélodie du bonheur en 65, Cabaret en 72, Rocky Horror Picture Show en 75, est sans aucun doute l'héritage des comédies musicales. Et bien sûr, celle-ci se poursuivra. Récemment, nous avons la version cinématographique de la fameuse comédie Chicago. Et la version originale, bien que basée sur une musique achevée antérieurement, ce qui en fait également une partition. Et le très populaire Moulin Rouge de 2001. Je suis prêt à parier que les comédies musicales continueront à sortir quelques années plus tard, mais ne seront plus jamais aussi accrocheuses. À peu près au moment où nous avons intégré la première musique pop au cinéma, les réalisateurs ont commencé à se rendre compte qu'ils ne pouvaient pas annoncer et vendre la chanson du thème de leur film sur un marché tout à fait distinct. L'industrie de la musique, ce sont des origines de bandes sonores qui sont libérées séparément du film et ne contiennent que la musique du film. Dans la plupart des cas, les bandes sonores proviennent généralement des films contenant des partitions, ce qui signifie que la musique qu'ils entendent n'est ni classique ni thématique identique. Au lieu de cela, la partition est composée de nombreuses chansons, dont certaines peuvent être pour le film et d'autres non. Le Lauréat de 1967 est un film incroyablement célèbre avec une partition avec des chansons populaires de Simons & Garfunkel, telles que Scarborough Fair, Mrs. Robinson and Stone of Silence. Le but de la partition est de générer près de deux fois les revenus et peuvent vendre et commercialiser le film dans l'espoir que tout se passe bien et vendre et commercialiser les chansons, l'album en espérant qu'ils obtiennent également de bons résultats. Parfois, une chanson popularise un film et parfois un film, une chanson. Mais dans les deux cas, Hollywood gagne deux fois plus gros. Nul doute que nous allons continuer à entendre les partitions ainsi que la technique de notation classique pour les films épiques et plus classiques dans les films pendant un certain temps.
Merci Maître Bell.
Merci de nous avoir proposé ce sujet sur la musique dans les films. J'espère que vous avez appris plein de choses sur ce sujet.
Moi en tout cas, ouais. Alors on s'éloigne un petit peu du numérique, mais ça permet de raccrocher en fait avec les épisodes précédents où il nous a parlé de la musique numérique, et c'est bien de savoir ce qu'il y a eu avant aussi. Et puis, alors c'est un peu plus écoutable que la fois précédente où c'est vrai que interviewer par téléphone, c'est pas forcément évident quand on n'a pas le matériel. Là, quand même, c'est plus pratique. Et merci Maître Bell d'oser enfin parler, parce que depuis le temps qu'il nous fait des textes mais qu'il n'osait pas mettre sa voix dessus.
Et oui, on a quand même plaisir de t'entendre aussi, hein. Même si on sait pas trop à quoi tu ressembles. C'est le mystère.
Bah oui, mais c'est le but, c'est le mystère de la radio, c'est ça aussi.
C'est le mystère de la radio. Eh bien, nous allons faire une petite pause.
Ouais.
Toute petite, et on se retrouve après pour l'agenda. Eh bien, c'était une petite pause proposée par notre ami Fabugno de AAA, Little Love Song.
Ouais, le silence après Fabugno, ça reste du Fabugno.
C'est ça. Donc passons à l'agenda.
Rappelons que l'agenda est celui de la semaine passée, si vous nous écoutez le samedi, parce que c'est une rediffusion. Donc on a juste le Forum des métiers de l'informatique et des télécoms, ce sera le 25 janvier à l'IUT de Valence. Alors c'est juste mon petit doigt qui m'a dit, enfin quelqu'un à l'IUT, mais j'ai pas plus d'infos pour l'instant, donc dès qu'on a une info, on vous le rajoutera sur notre blog AAA.fr avec le lien et tout ce qu'il faut. Rappelons d'ailleurs, tant qu'on y est, que...
Oui, on peut nous retrouver effectivement en podcast sur Radio Méga,
sur
radio-méga.com, sur AAA.fr.
Voilà.
Et aussi, on peut nous retrouver sur iTunes aussi. Vous pouvez nous écouter en recherchant underscore. Vous avez deux émissions qui sont proposées. Vous avez une américaine.
C'est pas nous.
Non. Une française.
Ah ben, bah c'est nous, ça.
Ah ben, bah voilà, c'est nous. Donc, vous pouvez nous retrouver et vous abonner au podcast, qui fait que automatiquement, si vous êtes abonné, vous pourrez avoir le téléchargement, si vous le souhaitez, sur votre appareil numérique de nos émissions à chaque fois qu'elles arrivent. Donc sachez que nous sommes diffusés une première fois tous les dimanches à 13h et puis en rediffusion le samedi à 12h15.
Et oui, et sur AAA.fr, il y a aussi moyen de récupérer les flux
RSS.
De podcasts, voilà, pour tous les lecteurs que vous avez. Alors, faut fouiller un petit peu. Dans le menu en haut, il y a émission underscore, vous cliquez là-dessus. Et vous cliquez deux, trois fois et vous arrivez à tomber dessus. Il faut cliquer sur les liens dans Podlove, mais on arrive à trouver pour s'abonner aux diffusions.
Nous allons frotter la boule de cristal.
Qu'est-ce qu'on a, astrologique,
que dit-elle ? Allez, Season Min,
la VM,
la VM, ça voulait dire...
Je virtualise plus.
Libriste, proctologue, c'est le spécialiste du slash proc.
Ouais, ça doit être ça, hein. Technophile, je vais mettre en place un suivi des moutons en Bluetooth Low Energy. Ah, tu fais ça en BLE ?
Codeur, un JIT commit, JIT...
Non, c'est GTI. Justement, c'est GTI commit. GTI, c'est le SCM des gens qui mettent le turbo.
Ah ! Microsoft, alors j'ai Windows 1, 3, 3.11, 95, 95 SE, 98 SE, 7, 8... Ah, c'est le 10. Ah bah, à mon avis, il y a un bug.
Électronicien, Kenji Dirac, il est sur toutes les fréquences. Hashtag Ironem.
Eh bien, amis auditeurs, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À bientôt. Bye bye.
Bye bye.